4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
De bonnes adresses, des conseils, de la régalade, les coups de fourchette de nos invités, vous le savez, c'est ici que ça se passe. Bien le bonjour les amis, au passage un grand merci pour votre fidélité, pour vos messages sur les réseaux sociaux et puis pour vos mails également. Bien manger et comprendre ce que nous mangeons, c'est le programme jusqu'à midi et demi. Tiens, à 15 jours de Noël, la table des bons vivants se transforme en épicerie fine. On a plein d'idées de cadeaux comestibles pour vous. On va s'interroger aussi à quoi va ressembler le restaurant de l'après-Covid. On en parle avec le gastronome Alain Bauer. Il a cuisiné une cinquantaine de chefs. Voici mes bons vivants du jour. Elle aime cuisiner les vignerons pour mieux connaître et reconnaître leurs jolis crus. Miss Glouglou pour les intimes, c'est Ophélie Neyman du journal Le Monde. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent.
Ravi de vous retrouver. Il aime cuisiner tout court, du végétal, de l'animal. C'est un amoureux du produit avant tout. Yves Candebord est avec nous. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent, bonjour Ophélie.
Bonjour Yves.
C'est une grande voix d'Europe 1. La journaliste Catherine Ney vient casser la croûte avec nous. Son dernier livre nous fait découvrir nos arrière-cuisines politiques. On est très heureux de l'accueillir. Alors on ne change pas nos bonnes habitudes, comme chaque semaine, je vous pose la question, faites la même chose à la maison ou en voiture, où que vous soyez, quel est votre goût de la semaine? Je vous pose la question, Ophélie.
J'ai pas réfléchi très longtemps parce que c'était la Saint-Nicolas, dimanche, lundi.
C'est vrai.
Donc le pain d'épices, bien sûr. Alors, je sais, le
vous
pain
êtes une
d'épices,
fille de l'Est, c'est pour
oui,
ça.
Oui, c'est ça. On peut le faire soi-même, hein, le pain d'épices, c'est pas très compliqué,
ah
c'est
non.
super bon, mais... Moi, je suis un peu une petite fille dans l'âme encore, donc j'aime bien quand il a la forme du Saint-Nicolas avec le sucre glace dessus et avec la petite image qu'on peut décoller avant de le manger.
Et vous les collectionnez toujours, les petites images?
Je les garde au moins un mois, ouais, c'est vrai, je peux jouer avec. Non, mais et où est-ce qu'il s'approvisionne, Saint-Nicolas? Parce que Saint-Nicolas, il a pas tout fait lui-même.
Et dans l'Est, du côté de Strasbourg.
Ouais,
hein.
Ouais. Moi, j'aime bien aller chez Fort Wenger, par exemple. C'est une adresse qui est très connue, qui émaille un petit peu. On en trouve à Strasbourg, à Colmar, à Riquewihr. Mais j'aime bien aussi la maison Pidol à Metz. Je crois que Saint-Nicolas, de temps en temps, va là-bas pour acheter un petit peu de pain d'épices à distribuer.
C'est vrai qu'un bon pain d'épices maison, faites ça ce week-end, c'est simple. On vous mettra tiens, une recette sur notre site europe1.fr, une recette toute simple avec de la farine de seigle et du miel. Il faut beaucoup de miel pour avoir un bon pain d'épices.
Et ça se garde longtemps en
plus. Et puis un bon pain d'épices avec un bon foie gras. Je peux vous assurer, à Strasbourg, vous en mangerez plus.
Et comme ça, on réconcilie le Nord-Est et le Sud-Ouest.
Ah, c'est vrai qu'à Strasbourg, c'est interdit aussi, oui.
Mais tant mieux, comme plus ça, il n'y en aura que pour les gens qui savent l'apprécier.
Plus de foie gras à la mairie de Strasbourg et plus de foie gras à la mairie de Lyon. Effectivement, ça fait partie des dernières nouvelles. Votre goût de la semaine, Yves?
Ah, mon goût de la semaine, moi, c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un petit hommage, un grand hommage à Pierre Rabhi qui nous a quittés, qui vient de disparaître. Et j'ai eu la chance cet été de passer un long moment avec lui. Voilà. Et ça a été un moment très agréable, un moment très reposant.
L'homme de la sobriété heureuse.
Voilà, un sage qui voyait l'avenir avec... il se rendait compte qu'il fallait bouger, mais quand même très positif dans son discours. Je pense que pour moi, ça a été quelqu'un qui a déclenché une vision de ma cuisine, très écologique, très propre, très pure.
Anti-gaspi,
voilà, et puis surtout proche de la nature, proche de la terre. Donc voilà, je lui rends un hommage, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a marqué ma jeunesse et qui m'a marqué encore cet été quand j'ai eu la chance de le côtoyer.
Et relisons ses livres.
Hein. Ah, on peut les lire aujourd'hui. Je pense que même les premiers qu'il a fait sont encore au goût du jour. Il était précurseur, il avait une vision de l'avenir bien en avance par rapport à tout le monde.
Au revoir, monsieur Pierre Rabhi.
Au revoir.
J'étais à Lyon, moi, cette semaine, figurez-vous, en reportage sur les traces des artisans du goût lyonnais. Vous verrez bientôt ça dans mon magazine. J'ai vu des artisans bouchers, des tripiers, des maraîchers, des gens passionnés. Mais juste avant ça, je suis allé dans ma famille, dans les Monts du Lyonnais, à Saint-Laurent-de-Chamousset, précisément chez mon oncle Pierre et ma tante Bernadette qui nous écoutent religieusement tous les samedis. Et vous savez ce qu'ils m'ont fait ? Un gratin de cardon. Mon oncle, il cultive ses cardons, il les fait blanchir en mettant du carton tout autour et ensuite il les met en bocaux au naturel. Et là, ils m'ont fait un gratin de cardon à la moelle, comme on le fait dans les règles de l'art dans la région lyonnaise. Et je peux vous dire que ça, je m'en souviens encore, c'est onctueux, c'est réjouissant, c'est réconfortant, c'est une belle recette familiale.
Ah, ça donne très envie, ça.
Ouais, mais c'est des légumes de saison. C'est vrai que c'est des légumes qui ne sont pas souvent utilisés alors qu'ils ont du caractère, de la profondeur et du goût.
Allez, c'est l'heure d'aller allez au marché, les amis, direction la Barthe-sur-Lèze en Haute-Garonne. Quels sont les produits tiens, que vous aimez cuisiner en cette saison dans la région? Vos réponses au micro de Benjamin Peter. Vous le savez, c'est le correspondant d'Europe 1 dans la région.
Des légumes pour faire du pot-au-feu. Carottes, céleri, poireaux, pommes de terre. Voilà.
On a surtout des légumes de saison puisqu'on est producteur. Donc on a tout ce qui est navet, le céleri rave, le fenouil. Et d'ailleurs, il nous reste nos derniers poivrons. Hein, on a encore, c'est une exception cette année. Et après, on a tout ce qui est courge, la courge spaghetti également.
Alors, comment vous conseillez de la préparer, la courge spaghetti?
Moi, je la fais bouillir. Je la coupe en deux ensuite. Et avec une fourchette, je viens racler en fait l'intérieur de la chair et ça ressemble à des spaghettis. Et après, je le prépare comme des spaghettis à la carbonara ou à la bolognaise. C'est un délice.
Bon, qu'est-ce qu'il lui faut encore, chef? Chou rouge, blette.
Je vous demandais ce que vous avez acheté.
Des pruneaux, des olives, du raisin, des carottes, une salade et des oignons derrière et la charcuterie. Ce soir, j'ai la soupe et puis ça, c'est pour l'entrée. J'ai des clients à la maison qui m'y attendent pour que je cuisine. Monsieur.
C'est qui ces clients?
Et mon mari, mes enfants. Voilà.
Ah, merci,
c'est
madame.
Bon client, ça.
C'est magnifique. Merci, Benjamin Peter, d'aller justement comme ça récolter les ambiances et les sons sur nos marchés de France et de Navarre. C'est vrai que la cuisine, on ne le dira jamais assez, mais elle commence sur le marché. Quel que soit votre budget, allez faire le marché.
Eh oui, le marché, c'est la, ce que j'ai envie de dire, c'est le premier déclencheur du goût. Voilà, c'est en voyant les matières, en voyant les produits, que ça nous donne envie. Et quand en plus on a face à nous l'artisan qui a fait le produit, qui l'a fait pousser ou qui l'a élevé, là, qui vous transmet cette passion qu'il y a mis, obligatoirement, vous le traitez de façon différente, vous le sublimez.
Mais c'est là qu'on voit comment se comportent les gens. Hein, parce qu'il y a les personnes étourdies comme moi qui vont au feeling et qui achètent tout ce qui leur fait plaisir et qui rentrent à la maison en disant « qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Comment je vais le cuisiner ?» Et il y a ceux qui ont déjà leur liste et qui n'achètent que ce dont ils ont besoin sans se laisser aller à des petites frivolités. Donc c'est intéressant de voir ça.
Et puis ceux qui se laissent aussi guider comme ça par leur instinct, je le dis toujours, laissez-vous guider même si vous ne savez pas comment cuisiner tel ou tel produit. En rentrant à la maison avec des livres ou avec ce qu'il y a sur Internet, vous trouverez des idées, mais laissez-vous guider par votre instinct.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
15 jours avant Noël, la saison des grandes tablées et des cadeaux commence. Plutôt qu'une écharpe et des gants pas toujours assortis, si on offrait des cadeaux comestibles, les amis. Alors aujourd'hui, la table des bons vivants se transforme en épicerie fine. De belles idées, hein, made in France et pas trop cher, puisque cette année, les Français vont dépenser moins que d'habitude pour les cadeaux, Ophélie.
Oui, est-ce que c'est la hausse des prix du carburant, de l'énergie, des produits alimentaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, selon un sondage, ils devraient dépenser 282 € en moyenne, alors qu'avant la crise sanitaire, c'était 342 €. Bah,
le pouvoir d'achat est en tête des préoccupations des Français dans le programme présidentiel des candidats. Hein. Du local et du made in France, Yves.
Oui, complètement. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que le local et le made in France est plébiscité maintenant par 59% des Français. Et après aussi, il y a le fait maison. Le cadeau qui est fait avec ses mains, avec son cœur, avec sa passion. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau à offrir, Laurent?
Ben oui, qu'un cadeau maison. Ben on va en parler, justement.
Ma grand-mère, avant que je monte à Paris, m'offrait, me donnait une offrande, me donnait une conserve, me donnait un pot de confiture. Mais quand je me retrouvais dans ma chambre de bonne, tout seul à Paris, dans les années 80, je peux vous assurer que quand j'ouvrais mon pot de confiture... Ben vous sentez mamie.
Et vous étiez avec votre grand-mère.
J'étais avec mamie.
Mais c'est
ça qui est exceptionnel.
Mais effectivement, moi, je parlais de ma famille tout à l'heure. Je suis remonté des monts du Lyonnais avec un saucisson de la région. Ben voilà, on prolonge le goût de la famille et du partage.
Et le cadeau, c'est de l'émotion. Et l'émotion, c'est pas foncièrement un prix onéreux.
Commençons avec une sélection de cadeaux et on vous écoute. Tiens, Yves, c'est vous qui ouvrez le bal.
Alors, moi, le cadeau pour moi, c'est la rencontre. C'est partager une passion. Et c'est des cadeaux, souvent, on n'y pense pas trop. Alors, je vais vous donner deux exemples. Allez voir n'importe quel vigneron de France. Vous l'appelez, vous lui demandez de vous faire un bon cadeau, juste une dégustation d'une visite de son chai. Et vous l'offrez à quelqu'un qui aime le vin.
Ah oui, c'est bien ça.
Je peux vous assurer que rentrer dans un chai, rencontrer la personne qui fait le vin, déguster 3-4 petits vins avec beaucoup de modération, c'est un moment qu'on n'oublie pas.
Oui, on offre une expérience comme un cadeau.
On offre une expérience. Et une expérience aussi qui est maintenant plus commune, le pain. Alors, à Cucugnan, alors un boulanger que tout le monde connaît dans le monde, dans le monde professionnel, Roland Feuillas, propose 4 jours avec lui.
Alors ça c'est un cadeau magnifique. Roland Feuillas qui travaille avec des variétés de blés anciens et qui a son propre moulin.
Et le premier jour, vous allez comprendre les semences des blés. Le deuxième jour, vous allez voir comment on moue la farine. Le troisième jour, vous allez pétrir. vous allez cuisiner le pain et le quatrième jour, vous allez le déguster.
Et on rentre à la maison et on sait faire du bon pain grâce à Roland Feuillasse.
C'est un moment assez exceptionnel.
C'est très bonnes idées, ça, d'aller faire des stages comme ça chez nos vignerons, chez nos artisans, boulangers ou autres. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à nos auditeurs, Ophélie ?
Alors moi, c'est un petit peu différent, mais c'est pour ceux qui ont envie de faire un cadeau solidaire, faire une bonne action en cette période de fête. C'est vrai qu'à la base, Noël, il fallait rendre service aussi à son prochain. Puis il paraît que dans le monde d'après, on fait aussi des cadeaux plus solidaires. Donc voilà, moi j'avais envie de vous parler d'association, l'association Cantine du Monde, association Partage, qui lutte contre l'injustice et la violence faite aux enfants les plus vulnérables et qui combat l'indifférence. Vous pouvez aller voir ça sur cantinedumonde.org/l'association Partage. Autre idée, le chef Nabil Attar, qui est installé à Orléans, avec son restaurant qui s'appelle Narange, a réalisé 2 recettes pour 4 personnes avec un budget de 8 euros. Pour que tout le monde puisse reproduire et soutenir les actions de l'association. Donc c'est un moyen d'offrir des repas pas chers mais bons pour nourrir ceux qui sont autour de vous ou un peu plus loin.
Alors là, on est effectivement sur de l'expérience, sur de la solidarité. Un cadeau qui se mange, moi, tiens, ça s'appelle cerise Kalamata. C'est une confiture de cerises et d'olives de Kalamata avec du jus de cranberry, du sucre de canne. C'est les confitures parisiennes qui font ça. On peut les acheter sur Internet. Le petit pot vaut son prix quand même. Hein. Ça vaut 18 euros. Mais je vous assure que dans un fromage blanc ou alors dans le jus d'une volaille de Noël, par exemple, c'est délicieux. De la cerise et des olives de Kalamata qui ont des choses à se raconter comme ça en confiture. Alors, on peut aussi réaliser des cadeaux gourmands faits maison. On en parlait avec vous, Yves. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ça permet de personnaliser en fonction des goûts de chacun. Et ça ne coûte pas plus cher que les produits bruts en plus. Hein.
Non, ça ne coûte pas plus cher que les produits bruts. Et moi, alors, je m'amuse, mais je suis tout le temps impertinent et voire un peu provocateur. Pour les cadeaux de Noël, quand je vais en famille ou quand je vais chez les amis qui ont des enfants, je leur amène une pâte à tartiner que j'ai fait moi-même.
Ah, ça, ah, c'est bien ça.
Voilà. Non, mais je leur amène la
sans
pâte à
tartiner. Sans huile de palme.
Sans huile de palme. En plus, c'est très simple. C'est des amandes, des noisettes, un peu de chocolat, un peu d'huile de noisette. C'est très facile à faire. Et je me fais malin plaisir de leur faire goûter. En plus, ça vient de tonton Yves.
Mais oui, ils sont obligés.
Les gamins,
oui,
ils sont en train de me regarder avec des gros yeux. Ils goûtent ça et ils disent à leurs parents « Mais elle est bien meilleure que celle qu'on a dans le frigo. » Je ne cite pas de marque.
Non. Alors, s'ils la mettent dans le frigo, c'est une erreur déjà parce que ça fige. Hein.
Ouais,
faut leur dire qu'ils la laissent dans le placard.
Ouais, mais frigo ou placard, c'est pareil. C'est la même problématique de qualité. Mais je pense que c'est important. Et après, il y a plein de choses. De faire une confiture à la saison de l'abricot. Mais on va se prévoir le Noël. On va se faire des confitures d'abricot avec un peu de romarin et on va les offrir à nos amis. C'est toujours quelque chose qui est pour moi beaucoup plus puissant. Parce que, voilà, je disais tout à l'heure, on y met de l'intention. Voilà. Et quand les gens vont la consommer, mais ils se rappelleront toujours qu'elle arrive de chez tonton Yves.
La pâte à tartiner de tonton Yves. Ophélie,
alors
un
moi,
cadeau
fait maison.
Je ne
suis pas aussi douée qu'Yves en cuisine. Moi, je fais juste des sablés, mais j'essaye de faire des formes en fonction de la personne à qui je vais les offrir. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui aime la musique, je fais des notes de musique, je fais des notes de cassette. Et j'ai même fait comme ça des scènes de films. Mais le problème, c'est qu'à la cuisson, ça change un peu de forme. Hein. Alors parfois, les gens me disent « Ah, oh, mais c'est un super cheval que tu as fait là !» Et je dis « Non, c'est Ryan Gosling !» Donc bon, mais c'est rigolo, au moins.
Ça, c'est bien. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, les formes peuvent changer, vous avez raison. Et dans la série des cadeaux faits maison, je vous propose des clémentines confites. Mais vous achetez des petites clémentines corses, par exemple. Vous allez les blanchir 3 fois dans de l'eau bouillante, dans une casserole. Ensuite, vous les mettez dans une autre casserole, 1 demi-litre d'eau, le poids des clémentines en sucre. Vous portez à ébullition et vous laissez confire à feu très doux. Alors là, c'est un petit peu long, je vous l'avoue, je vous l'accorde. 5 heures hein, à feu doux pour confire les clémentines et vous les mettez en bocaux. Un joli bolduc sur le bocal et vous offrez des clémentines confites maison. C'est encore mieux de les prendre bio, bien entendu.
Ouais, mais ça, c'est vraiment des cadeaux qui sont profonds parce qu'en plus, la clémentine confite, on peut l'utiliser de 1000 façons, autant en sucré qu'en salé.
Et pour finir, tiens, un cadeau comestible à sa façon, je rajoute le magazine de Joëstar, ça s'appelle Five Star, ça vient de sortir en début de semaine, des rencontres avec des chefs, des artisans, il y a un roman photo avec son fils pour les recettes père et fils, ces recettes tac-tac, ça s'appelle Five Star et c'est en kiosque, et il y a même une version collector grand format que vous pouvez offrir. Voilà, vous retrouverez évidemment toutes les références sur europe1.fr en vous abonnant à la newsletter.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Comment va le restaurant depuis la pandémie et les fermetures successives? Et surtout, comment vont nos chefs, tiens, quelques jours des fêtes? Ont-ils retrouvé le moral? Ont-ils changé leur manière de cuisiner? Eh bien, pour en parler, j'ai invité un gastronome et un bon vivant émérite. On le connaît surtout pour ses qualités de professeur de criminologie. C'est Alain Bauer, notre invité. Bonjour Alain.
Bonjour.
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 Alors, vous venez nous voir avec un livre qui est un joli pavé, comme on dit. C'est une Bible, Confession gastronomique, avec 59 chefs, cuisiniers et restaurateurs. Ça sent le livre réalisé pendant le confinement, ça.
Une partie avant le confinement, la partie introduction, l'histoire de la gastronomie, du restaurant et des chefs, chefs et chefeuses.
C'est ça, absolument.
C'est important de noter la part très importante de femmes, pas seulement de mères, qui œuvrent dans la gastronomie. Et puis une deuxième partie, parce que je n'ai pas voulu faire un livre sur les chefs et sur la gastronomie, mais avec eux. Et donc les 59 cuisiniers et cuisinières, chefs et chefs, oui, et restaurateurs et restauratrices, parce que c'est toutes les catégories qui se retrouvent là-dedans. Donc c'est une coproduction en fait.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ils se racontent eux sur leur parcours, sur leurs origines et puis sur leur évolution. Et puis vous, vous les cuisinez sur la cuisine de demain par exemple et sur les grands moments de leur vie. La fourchette et la table font partie de votre panthéon personnel depuis longtemps, j'ai l'impression. Alain
Bauer. Depuis ma prime jeunesse, c'était ma prime des bons résultats scolaires, ce qui pour un prof est quand même quelque chose qui marque.
Pas mal.
Et donc à chaque bon résultat, mon père qui est lyonnais d'origine, enfin la famille est d'origine lyonnaise, considérait que la prime de résultat était le bistrot, puis le gastro, puis les gastros. Et donc j'ai suivi ce parcours, ce qui a permis d'établir des liens, des relations, le goût aussi, la diversité.
Vous vous souvenez de votre premier restaurant ?
Mon premier restaurant était un restaurant où on mangeait une poularde au mori. Je ne me rappelle plus le nom du restaurant, mais je me rappelle très bien de ce que j'y ai mangé.
Vous vous définissez comme un gastronome critique, mais vous avez été critique gastronomique aussi.
J'ai été inspecteur d'un guide, oui.
Même le Champérard.
De plusieurs, oui, à la grande époque. Mais moi, je suis quelqu'un qui pense avoir appris à manger, mais je ne sais pas cuisiner. Ce n'est pas comme vous ou comme Yves.
Mais c'est dingue parce que la légende, votre légende, dit que vous avez mangé ou que vous mangez au restaurant matin, midi et soir.
Alors, matin, oui, parce que le petit déjeuner est en général des petits déjeuners de travail. Le déjeuner, oui. Le soir, de moins en moins, essentiellement parce qu'au bout d'un moment, c'est partout. Mais pendant 40 ans, je n'ai jamais mangé chez moi, jusqu'au confinement en fait. Confinement, j'ai redécouvert les charmes de la cuisine à la maison.
Mais c'est ce que j'allais dire, il faut une sacrée santé financière et une santé tout court quand même pour manger au restaurant plusieurs fois par jour.
D'abord, on n'est pas obligé de manger au gastro tous les jours. On peut manger au bistrot, au bisgros. On peut manger dans des tas d'endroits qui sont beaucoup plus abordables. Et puis, désormais, on peut aussi se faire livrer. Et curieusement, dans la livraison, il n'y a pas que des choses mauvaises ou inabordables.
C'est ça, parce que parfois, on est intimidé par certaines tables. Et c'est même comme les bars de palace. Souvent, on n'ose pas rentrer dans les palaces. Et parfois, pour 25, pour 30 euros, on peut manger un très, très, très bon club sandwich, par exemple, dans un palace avec des ingrédients de qualité.
Donc, il faut aussi avoir un plat chaud. Alors, évidemment, le menu complet est un peu plus brutal. Le café est un peu inabordable, mais on peut trouver des endroits. Moi, je me rappelle quand Antoine Westermann avait repris Drouan, il y a très longtemps, son menu est à 30 euros parce que justement, il ne voulait pas faire un nouveau gastro à Paris, mais un bistrot abordable. Yves Candebord avait fait à peu près la même chose quand il a ouvert ses premiers bistrots. Donc, c'est un enjeu.
On n'était pas à 30 euros, on était à 15 euros.
Hein. Oui, ou même en francs. À
l'époque. Parce qu'il y a très longtemps, déjà 30 euros, ça commençait déjà à faire.
Oui, mais aujourd'hui, c'est devenu quasiment un ticket restaurant. Enfin, il y a vraiment ces enjeux de retrouver de la proximité et de la qualité qui permettent de... Voilà, mais effectivement, on peut avoir des revenus plus importants, ce qui permet d'avoir un choix plus large.
Qu'est-ce que vous aimez tant au restaurant ?
D'abord, on y mange avec quelqu'un, on n'est pas seul, assez rarement. Ensuite, il y a une ambiance, il y a une qualité, il y a la relation avec le ou les chefs, le personnel. On peut papoter, on peut se raconter des histoires, on peut suivre l'actualité de tout ce qui se passe tout autour de vous. Non, le restaurant, c'est chaleureux, c'est humain.
C'est un théâtre aussi.
C'est une part d'humanité, je crois, surtout. Ça peut aussi être un théâtre quand des gens sont en représentation, mais il y en a qui viennent juste manger.
Dans ce livre, vous donnez la parole à 59 chefs, ils se racontent tous, et puis vous les cuisinez ensuite sur le restaurant de demain. Vous le voyez comment, le restaurant de demain, alors, Alain Bauer ?
Alors moi, pas beaucoup, eux, beaucoup mieux que moi. D'abord, ils rêvent tous d'un restaurant qui ne serait plus un restaurant, en fait. Ils rêvent d'une petite auberge avec une table d'hôte et une cheminée au milieu, et ils y recevraient plus des copains qu'il n'y aurait des clients. Ça,
c'est pas
vraiment
votre fantasme, ça, Yves Candebord aussi ?
Non, je pense que c'est le fantasme de tous les cuisiniers, quoi. Mais bon, il y en a peu qui le mettent réellement en pratique, parce que tout le monde en rêve de cette convivialité et de ce partage, mais pas beaucoup le font.
Oui, mais plus en plus. Vous voyez, Christopher Hache, il est sorti du grand gastronome d'hôtel, du palace, pour aller ouvrir sa petite maison. Benicio Darvas aussi. Ils le font plus qu'avant, y compris ceux qui continuent à faire le gastro. Michel Guérard, la ferme aux Griffes, c'est un espace absolument invraisemblable de convivialité à côté d'un grand gastro formidable. La Bastille de Moustier d'Alain Ducasse, tous ces endroits-là commencent à ressembler à ça. Donc, ils ne font pas que cela, mais beaucoup plus le font, je crois, et ils transforment leur fantasme en réalité, et ils le disent plus qu'avant.
Alors, ce que vous dites aussi dans ce livre, c'est que pour certains chefs, la pandémie a changé la façon d'appréhender leur métier. Je pense à Eric Prat, à la Meloise, à Chagny, en Bourgogne, qui lui avait enlevé le plateau de fromage à l'époque, parce que ce n'était pas Covid-friendly, le plateau de fromage. Donc, il a repensé le fromage différemment.
Alors lui a repensé le fromage, d'autres ont découvert qu'ils n'avaient plus de livraison, ils n'avaient plus de fournisseurs, et donc le très très loin, c'était très très compliqué, même quand on n'avait pas, vous voyez, l'auberge des Ducs à Aubernais, ils ont été obligés de revisiter toute la carte, et ils sont passés pour certains au local, d'autres au glocal, mais le global a pris un gros coup dans l'aile, donc ça a été revisiter tout, et pas seulement sur l'offre de produits, mais aussi sur le zéro déchet, aussi sur une offre plus... végétarienne, voire végétalienne, parfois végane, même si visiblement le steak de soja reste le niveau indépassable de ce qui est proposable.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi matin sur Europe 1, nous sommes en compagnie d'Alain Bauer, gastronome émérite. Il vient nous voir avec un beau livre, Confessions gastronomiques, des conversations avec 59 chefs, des cuisiniers et des restaurateurs. Comment y vont nos chefs restaurateurs, nos chefs cuisiniers après ce Covid, Alain Bauer ?
Alors, il y en a beaucoup qui l'ont pris comme un coup de massue et qui s'en remettent doucement. D'autres qui l'ont pris comme un coup de pied dans l'arrière-train et qui ont considéré que ça ne faisait qu'accélérer un processus auquel ils avaient déjà pensée, plus ou moins. La plupart ont été rassérénés par le retour des clients, massivement, qui ont tous repris...
On l'observe, c'est vrai que autant le cinéma et le théâtre ont du mal, pour certains, à mobiliser quand même les gens, mais le restaurant est devenu l'endroit de vie, est redevenu l'endroit de vie où on a envie de se retrouver avec le pass sanitaire, malgré les gestes barrières qui sont parfois compliqués à respecter.
Alors, pour revenir par rapport au Covid, est-ce que vous ne pensez pas que justement, cette période qu'on a vécue, ce Covid qui nous a tous obligés d'arrêter de travailler, n'a pas fait du bien aussi à notre métier pour remettre un peu les pieds sur terre ? Et est-ce que le cuisinier, le restaurateur n'était pas parti dans des sphères un peu trop élevées en se prenant plus pour des artistes que pour des artisans, qu'on revient à ce retour de choses, en fin de compte, très sincères, très honnêtes, que notre métier, c'est de recevoir avec beaucoup d'humilité et de faire une cuisine qui est sans artifice, qui est peut-être plus vraie ? Est-ce que ça n'a pas... C'est pas un bien pour un mal.
Pour la plupart d'entre eux, vous avez tout à fait raison. Et la plupart d'entre eux se sont réenracinés dans un métier qui était plus aubergiste, cuisinier, que chef au sens auréolé d'étoiles. Mais certains d'entre eux sont restés coincés. C'est-à-dire que le coup a été si fort qu'ils sont dans une logique « rien n'a changé et rien ne changera jamais ». Et j'attends juste que ça reprenne comme avant. Alors, d'autres
vous
ont accéléré.
Vous parlez de quelle catégorie ? De qui vous parlez quand vous dites
non,
ça ?
Non, c'est assez divers. Ce n'est pas une catégorie en tant que telle. C'est vraiment un choix de caractère. D'ailleurs, la plupart ne sont pas dans le livre parce qu'ils ont dit « mais je ne veux pas parler de cette partie-là. Je veux bien te raconter ma vie, mon œuvre, mais je ne te raconterai pas le restaurant d'après. » Donc, du coup, j'ai dit « écoute... »
Donc, ils ont une forme de certitude que ceux qui ont raison, ils sont capables d'aller dans un mur.
Je crois surtout
c'est les dépressifs du moment.
Été, exactement. Je crois qu'ils ont été mais complètement tétanisés, sidérés par ça. D'autres avaient commencé un processus de plus local,
humain.
Plus humain, etc. Mais tous ont sous-estimé, tous ont dit on va avoir des problèmes pour remettre le personnel au travail. Personne n'avait imaginé la fuite du personnel. Ils avaient imaginé que ça serait dur de repartir. Ils n'ont pas imaginé qu'il en manquerait entre 3 et 500 000.
Là-dessus,
enfin, le chiffre 300... est très variable. Hôtellerie, restauration,
oui,
le chiffre entre guillemets officiel. Je n'ai aucune idée de comment il a été calculé et j'ai toujours avec les chiffres une très grande prudence. Mais entre 3 et 500 000 postes vacants, c'est un chiffre très intéressant, immense, incroyable. Et surtout, on sent bien qu'il y a un problème particulier entre ceux qui avaient déjà une relation partenariale, collégiale, conviviale avec leur personnel et qui ont réussi plus ou moins à reprendre, mais qui ont toujours des problèmes parce qu'ils ont des gus qui arrivent le lundi, qui partent le mardi. Quand ils ouvrent un restaurant, quand ils essayent d'élargir les plages horaires, quand ils essayent d'avoir une nouvelle équipe, justement pour respecter les pauses, etc. Et puis, ceux qui sont restés dans une logique très chef à l'ancienne et qui découvrent que les gens fuient ce qu'était la dureté des temps. Vous avez un très bon papier de Yannick Aleno qui est paru cette semaine, appelant à des états généraux de la gastronomie en indiquant tous les éléments des crises qui sont là. C'est une assez jolie synthèse de eh bien, nous sommes face à un mur ressources humaines et pas seulement à une crise. Localisation, déchets, production, qualité, bio, tout ça a été anticipé plus ou moins. Là, on est dans tout à fait autre chose. Enfin, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est qu'est-ce qu'un restaurant ? Un restaurant, ce n'est pas un endroit où le chef réchauffe ce qui vient de la grande distribution. Un restaurant, c'est un endroit où on fait la cuisine. Et il y a dans ce label officiel du restaurant un problème qui n'est pas résolu, car aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on mange ni chez qui on le mange. Et à force d'ouvrir les poubelles et à sortir les emballages, on va avoir un problème. Et je pense que la labellisation de ce qu'est un restaurant, c'est-à-dire un endroit où un cuisinier fait la cuisine, sera aussi un nouvel enjeu du respect du consommateur sur « il va dans un endroit où le chef fait la cuisine et ne réchauffe pas des surgelés ».
Alors dans ce livre, justement, vous interrogez sur le restaurant de demain. Vous le voyez comment, vous, demain, le restaurant ?
Ah, je le vois petit, convivial, sympathique, de proximité et glocal. Pas local, parce que je crois que les épices, l'ouverture au monde, c'est une des chances de la gastronomie française et qui ont permis d'ailleurs de l'exporter et d'importer de très grands chefs. Vous avez plusieurs chefs étrangers qui sont des héros OS et AUT de la gastronomie française. Mais c'est surtout un moyen d'allier à la fois la diversité des produits, la qualité des produits, la proximité des produits, mais pas seulement, dès lors qu'on est dans une démarche qui est de dire la qualité d'abord et je respecte le consommateur et mon offre, elle est explicite, elle est claire, elle est transparente et si possible, elle est de qualité et tant qu'à faire, abordable ou en tout cas, le prix se justifie par ce que je propose.
Alain Bauer, question pour vous. Tiens, le gastronome est l'habitué des restaurants. Question que je poserai à Catherine Ney dans un instant. Quel est votre plus beau repas ?
Mon plus beau repas était le 31 décembre 1999 dans un endroit hors de prix, mais emblématique, était la Tour d'Argent. D'abord, on n'était que des amis.
C'était avec le vue sur Notre-Dame de Paris.
C'était le changement du millénaire et le repas était plein de trucs absolument classiques.
Vous avez mangé le fameux canard au sang, spécialité de la Tour d'Argent ?
Pas du tout. J'ai mangé un autre canard, mais qui était absolument formidable.
Marco Polo ?
Oui.
C'est quoi le canard Marco Polo, raconté ?
Un canard au poivre vert.
Ah. Merci Alain Bauer d'être
merci
venu et de nous avoir livré vos confessions gastronomiques. C'est paru chez Fayard. Conversations et confessions, on peut le dire, avec 59 chefs, cuisiniers et restaurateurs.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Tu sais bien, le temps passe. C'est le dernier livre de Catherine Ney, notre invitée, grande voix d'Europe 1, journaliste chevronnée. Elle observe les hommes et les femmes politiques depuis de nombreuses années. Libre et indépendante, elle ne craint et n'épargne personne. Son dernier livre raconte les petites histoires qui ont fait la grande histoire. Elle se confie aussi dans ce livre. C'est une voisine de bureau en or. Et Catherine Ney, notre invitée. Bonjour Catherine.
Bonjour Laurent.
Bonjour. Heureux de vous recevoir à cette table. Et depuis le temps qu'on en parle... On est voisins de bureau, on est voisins de studio, puisque vous venez de quitter à cette heure-ci les grandes voies. Hein
oui, mais oui, mais non, mais depuis des années, d'ailleurs, je finissais par... je croyais que c'était une proposition qui ne venait pas. Mais voilà, donc je suis ravie d'être... d'être avec vous ce matin.
Et comment ? Et bravo pour ce joli livre. Tu le sais bien, le temps passe. Souvenir, c'est le tome 2. Hein. C'est la suite, on peut dire, oui. de votre premier tome, Souvenir. On lui souhaite le même immense succès que le premier tome, mais c'est bien parti pour. Et cette fois, vous allez des années 1995 à 2017, de l'élection de Jacques Chirac à celle d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a changé, tiens Catherine, dans le monde politique en 30 ans ?
Ce qui a changé par rapport à aujourd'hui, c'est que les hommes que je fréquentais à l'époque, enfin les hommes politiques et qui dont on parlait étaient des gens qui avaient déjà une expérience, voyez, qui avaient fait leur carrière, qui avaient commencé certains dans les cabinets, après comme ministre et qui avaient été élus, qui avaient fait des campagnes, qui souvent étaient à la fois députés et maires. C'était avant la fin de l'interdiction du cumul des mandats, vous voyez. Donc, c'était des gens qui quand on les voyait, vous parlez de politique et c'était, il y avait un intérêt à la rencontre parce qu'ils vous parlaient du terrain, parce qu'ils vous racontaient la France, parce qu'ils vous racontaient l'histoire de France au quotidien. Et vous compreniez à travers le dialogue qu'on avait avec eux, vous compreniez le pays. Et donc je pense que ça, c'était, vous voyez, d'avoir supprimé le cumul des mandats. Ouais. Ça empêchait, c'était à la fois des gens qui étaient une sorte pour un pouvoir, un contre-pouvoir à l'intérieur de la même famille, mais qui apportait une science et qui pouvait être des conseils et quelquefois des nuisances pour un président. Et donc, c'était des gens qui étaient des personnages, qui avaient une histoire et donc qui avaient du vécu. Voilà.
Alors, dans ce livre passionnant, vous racontez notamment, moi je me suis arrêté là-dessus, vous pensez bien, une rencontre entre Jacques Chirac et le chancelier Helmut Kohl à Strasbourg le 18 mai 1995, c'est page 42. Je vous cite, Catherine. « Un menu qui n'était pas fait pour des mauviettes. Escargot, fromage de tête, cervelas, tête de veau, foie gras et pour finir, tarte au quetsch, le tout arrosé de bière, de vin et de pinot noir. À ce concours d'appétit, ils étaient arrivés ex aequo, ce qui crée un lien. »
Mais oui, c'était deux gros appétits. Jacques Chirac, vous savez, pour moi, ma grande interrogation, c'était comment il pouvait survivre après avoir passé 10 heures au salon de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il passait d'une bouchée de fromage, un bout de foie gras, une huître, il mélangeait tout, une rillette, vous savez, du pain, des gâteaux, et puis la bière, surtout de la bière. Et je me disais le soir, mais il a un estomac en zinc. Comment pouvait-il arriver
à
digérer ça? Ça, c'était une nature. Quant à Helmut Kohl, je me souviens, Jacques Delors nous avait invités, El Kabbach, Duhamel et moi, à dîner, dans un restaurant qui était au début du boulevard Saint-Germain. J'ai oublié ce nom, où il y avait vraiment des plats de cochonnailles, vous savez, mais vraiment roboratifs, où il y avait un cochon sur la table, vous voyez. Et Jacques Delors y a amené, quand Helmut Kohl venait à Paris, ce qui arrivait souvent, quand il était chancelier, il est resté 14 ans, donc il l'amenait toujours, c'était vraiment le chancelier qui voulait aller dîner dans ce restaurant, et il vidait le plat. Vous voyez, à lui tout seul. Et c'était quand même des appétits hors normes. Et en plus, Chirac me racontait aussi, ça, c'est plus là, c'est que tous les matins, pour commencer son petit déjeuner, il prenait une tarte au chocolat.
Ben oui, ça ouvre l'appétit. Oui. Ben oui, on ne se rend pas compte, évidemment.
C'est déjà normal.
Bien sûr. Mais ah, oui. Quel est votre goût de la semaine, tiens, justement, Catherine Ney?
Alors, je suis rentrée hier soir, tard, fatiguée. J'étais à Bruxelles pendant une journée et demie. Et on m'avait fait à la maison un potage. Et c'était du potiron avec du butternut, la carotte, un peu de, je crois, il y avait un peu de noix de coco. Mais alors, la volupté, vous voyez.
Quand
vous rentrez, qu'il fait très froid, ce potage un peu épais,
un beau velouté réconfortant, quoi.
Oui. C'est un très bon mariage.
Et avec des accents asiatiques, avec ce petit lait de coco en plus, cette crème de coco.
Et ben, voilà, je vous raconte ma dernière volupté.
Catherine, votre bureau est à côté d'une autre à Europe 1. Et je vous entends souvent pester sur le goût de la moutarde. Vous me dites souvent, Laurent, quand je vais au restaurant, la moutarde n'a plus le même goût. Alors je peux vous dire qu'on s'est mobilisé ici avec Ophélie, avec Yves, Lucie Lescourot à la rédaction en chef. On va vous faire tester quelques moutardes. Qu'est-ce qui se passe, Yves Candebordes, avec le goût de la moutarde alors?
Moi, Catherine, je suis comme vous. Voilà, je suis un amateur de moutarde et malheureusement, on ne trouve plus de bonne moutarde sur la table de restaurant.
Que s'est-il passé?
Alors moi, j'ai essayé de le comprendre et je pense qu'il y a peut-être trois raisons. La moutarde, à une époque, dès que la restauration était passée un peu commerciale, parce qu'elle était offerte, comme on offrait la corbeille de pain.
Donc, c'était délicieux. Avec un bout de pain, on commençait le repas avec la moutarde sur le pain.
Pain a été moins bon, la moutarde a été moins bonne. Je pense qu'il y a un côté un peu, je dis, radinerie. Et après aussi, il y a sans doute une autre raison. Parce que la moutarde,
Le goût a changé.
Parce qu'ils ont acheté une moutarde bas de gamme. Parce
qu'on, mais vous savez, moi, j'achetais de la maille. Pendant longtemps.
On en a là.
Oui, pour faire, j'en faisais les salades et tout ça. Et tout d'un coup, un goût avait changé. Et je me suis dit, c'est moi qui suis folle ou pas?
Ou les graines de moutarde. Mais vous savez que je les ai appelées l'autre jour, ils n'ont pas été capables de me répondre à ça. Alors je vous ai passé moi aussi des moutardes de la maison Fallot. C'est de la vraie moutarde traditionnelle faite dans les règles en Bourgogne avec des graines de moutarde qui sont cultivées.
Mais là, vous allez me faire.
Elle va vous monter au nez, la moutarde.
Oui. Là, mais qu'est-ce que vous m'apportez de la moutarde?
Parce que c'est vrai que la moutarde aussi, il y a eu une évolution. On a de plus en plus maintenant de moutardes qui sont faites par des gros conserveurs. Et c'est des vraies conserves. Qu'à l'époque, on avait beaucoup plus de moutarde fraîche. Et il y a encore une maison à Paris qui fait de la moutarde fraîche. C'est la maison Maille.
Mais oui, je sais, il y a des... on vient là... Oui, mais moi, je crois qu'elle a changé de goût.
Alors, attendez. Honnêtement, moi, sur les dégustations qu'on a essayé de faire à l'aveugle, je trouve que c'est la seule qui garde ce côté floral.
J'essaye
c'est
ça.
C'est celle-là.
Ouais,
c'est celle que je vous ai servie.
Bon, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas parler la bouche pleine.
Non, non, mais on vous attend. Prenez votre temps.
Il y a toujours...
En même temps, c'est la seule émission.
Je trouve que c'est la dernière qui a encore ce côté de fraîcheur. Certes, encore assez puissante, pas trop de rondeur. Mais il y a une réalité aussi, c'est que nos palais aussi ont énormément changé. Voilà, que la moutarde n'est pas non plus un produit, je dirais, gastronome. Et que même maintenant, dans les brasseries, on essaie d'aller un peu vers la gastronomie. Et que démarrer un repas avec de la moutarde, c'est quand même un peu dénaturé. C'est pas
plus. Oui, c'est vrai qu'au niveau du palais...
Oui,
ça,
mais à l'époque, on n'avait pas cette impression-là.
Ouais.
Vous voyez ? Non, mais il y a quand même un plaisir de vivre au restaurant. Quand on allait dans les bistrots, il y avait ce pain qui craquait. Et puis, on plongeait...
Bien sûr, dans
ces gestes-là. Bon, là, je viens de goûter cette moutarde qui est assez bonne.
Voilà,
bon.
C'est la moutarde maille, la fraîche.
La fraîche, mais elle est forte. Hein.
Elle est puissante. Elle est puissante.
C'est-à-dire que, vous voyez, moi, quand je faisais une vinaigrette, je mettais de la moutarde et toujours une cuillère de miel.
Ah, pour adoucir.
Pour adoucir.
Ah, mais alors, c'est vous trichiez. Alors.
Non,
peut-être
mais
que
après...
celle que vous aimez, c'est la Savora, parce que celle-là, il y a
Non, mais après, pour atténuer, avec les nouvelles moutardes qui avaient perdu le goût, voilà, je faisais ça pour atténuer.
Pour enlever un peu de la puissance.
Voilà. Oui, moi, je trouve qu'on trouve de moins en moins de moutardes puissantes au restaurant, surtout. Oui. Elles sont souvent soit fades, soit très piquantes et de mauvaise qualité, mais avec très peu de complexité. On a le choix entre quelque chose de fade ou quelque chose de trop piquant.
Ouais, alors aujourd'hui, on voit quand même en France arriver qu'il y a quand même pas mal de producteurs de moutardes qui font beaucoup d'efforts. Et moi, j'ai un coup de cœur pour Dominique Vario, qui est en Corse et qui fait des moutardes aromatisées au cédra, à la clémentine, au citron, à l'orange, qui garde de la puissance et de la rondeur, peut-être une rondeur que vous retrouveriez un peu identique quand vous mettiez un peu de miel.
Eh bien, on va réinviter Catherine Ney, on lui fera goûter cette moutarde, justement. C'est peut-être celle-ci que vous aimez sans le savoir, Catherine.
Pardon, la moutarde...
Corse.
Non, mais peut-être, je vais l'aimer, mais moi j'aime bien la classique, qui est juste ni trop forte, ni trop fade. Vous voyez, c'est très difficile à trouver. Celle-là est bonne. Mais un peu forte. Là.
L'investigation n'est pas finie.
Moi, je
vous le dis sur la moutarde.
Que moi, je n'ai que mon doigt pour manger la moutarde.
On va vous donner du pain.
Des pommes de terre excellentes.
Des carottes, des oignons.
Des soupes aux légumes. Ouais.
Comment est votre blanquette ?
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Elle est bonne.
Laurent Bariotte.
Ah oui, elle est bonne, la blanquette d'OSS 117 avec de la moutarde,
avec
justement.
Avec de la moutarde. Avec de la moutarde. Une blanquette de veau avec une cuillère de moutarde dedans. Oui. Je vous promets que ça vous redonne un peu.
On est d'accord. On en parlait justement avant les titres d'Europe Midi. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Vous retrouverez le début et notamment les coups de cœur ou pas de Catherine Ney autour des moutardes françaises. Ce sera en podcast sur europe1.fr. Catherine qui est venue nous voir avec son dernier livre, Tu le sais bien, Le temps passe, Souvenir 2, aux éditions bouquin. Catherine, vous avez passé beaucoup de temps à table avec des hommes politiques. Quels sont ceux qui vous ont comme ça un petit peu bluffé par leur connaissance de la table et puis leur goût ?
Il y avait le gourmand qui était Jacques Chirac, qui aimait les plats roboratifs et il voulait que son assiette soit pleine et...
Copieuse.
Copieuse, oui. Je raconte dans le livre, pendant la cohabitation... il était parti, je ne sais plus dans quel pays de l'Est, avec Moscovici, j'ai oublié, vous voyez, c'est mon livre, j'ai oublié. Et donc, ils arrivaient pour déjeuner, et Pierre Moscovici voit Jacques Chirac faire un petit déjeuner, mais pantagruélique, vous voyez, avec du saucisson, du fromage. Il dit, mais écoutez, on va déjeuner à 13h. Et alors, il imitait très bien Chirac, qui lui disait, mais j'ai regardé, on va arriver... On va avoir une moussaka dégueulasse, on va avoir, je sais pas, dégueulasse, un gâteau dégueulasse. Et donc, il faut prendre de l'avance. Et Pierre Moscovici me racontait qu'il y a eu le dîner officiel et que Chirac avait repris de chaque plat, vous voyez. Donc, mais c'est quelqu'un qui brûlait, vous voyez.
Oui, c'est ça.
Et quand il était au cabinet de Georges Pompidou, avant de se lancer pour les élections de 67 en Corrèze, on racontait qu'il se faisait apporter des cuisines avant le déjeuner. Des sandwichs avec du pain et avec du pâté, du jambon. Et voilà, il avalait comme ça de deux ou trois et après il partait déjeuner.
Je trouve ça admirable parce que c'est vrai que physiquement, il avait un physique qui était assez anodin, à peu près normal.
Mais il était assez
svelte.
Il était grand. Il était svelte. Alors il brûlait beaucoup parce qu'il bougeait beaucoup. Et en tous les cas, il avait un système. Et oui, il avait le mérite. Après, à la fin, je veux dire, pendant la cohabitation, où il était malheureux, Moi, je pense qu'il buvait beaucoup trop de bière. Puis alors, qui a vu Jacques Chirac boire une bière? C'est un spectacle, parce que d'abord, on avait l'impression que le gosier montait comme ça, descendait, vous voyez, une espèce de volupté, et il pouvait en boire quand même pas mal, plus des tiponches.
Et oui, quand il allait à la Romerie, hein, boulevard Saint-Germain.
Oui, après avoir quitté le pouvoir, mais je crois qu'il aimait beaucoup ça, et je pense qu'il s'est pas mal abîmé la santé avec ce régime-là.
Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui vous ont impressionné comme ça, par leur connaissance des spécialités régionales, des produits de nos régions, du terroir?
Édouard Balladur, lui, était un gourmet. Alors, il aimait les choses, pas beaucoup de choses dans son assiette, mais la qualité du poisson.
Nouvelle cuisine, plutôt.
Nouvelle cuisine, et voilà. Mais il faisait très attention à son régime. Et alors, c'est lui qui m'avait fait découvrir ce qu'on appelle une piscine. C'est-à-dire, moi, dans ma jeunesse, jamais on mettait un glaçon dans le champagne.
Ah ben, on ne continue pas aujourd'hui.
Ah oui, c'est toujours péché. Hein.
Voilà. Et donc, péché. Moi, j'ai trouvé ça assez agréable, parce qu'on est moins vite grisé.
Oui,
et
c'est vrai,
voilà, et il trouvait que c'était voilà. Donc on appelait ça un Balladur. On va voir.
Dans ce livre, il y a un passage sur Lionel Jospin aussi.
Oui.
Catherine, vous dites, il n'était pas rare de croiser Lionel Jospin au marché avec un gros panier rempli de légumes, de pâtisseries, et vous racontez aussi que sa femme, à l'époque, pouvait, alors ça c'est fantastique, téléphoner en plein bureau politique lorsqu'il était premier secrétaire du PS.
Pour à son secrétariat.
Hein,
et puis c'était à une période où il n'y avait pas les portables encore.
En plus, voilà. Et il laissait comme message, il n'y a rien dans le frigidaire pour dîner ce soir. Donc il fallait qu'il fasse les courses.
Oui, parce qu'il avait épousé une femme qui était une féministe avant l'heure et qui trouvait que le partage des tâches, il faisait les courses tous les week-ends. Moi je le voyais le samedi ou plutôt le dimanche au marché de Bussy, vous voyez. Et toujours chargé de vivres, d'un gros paquet. Il faisait les courses pour la famille et on racontait qu'il recevait chez lui, qui arrivait, il réussissait très bien les omelettes.
Alors chez vous, en tout cas, à la maison, vous le dites, Albin Chalandon, votre cher mari ne s'y était pas risqué plusieurs fois, ça, à vous appeler pour faire les courses?
Non, c'est un jour où j'avais une angine, vous voyez, et il y avait été, il était revenu, il a dit, oh, mais c'est comme c'est amusant. Moi, je me disais, il a dû faire des ronds de jambes à la bouchère, qui est jolie femme. Voilà, il était très content, voilà, et il m'a dit, c'est très amusant de faire les courses. Et puis le samedi suivant, où j'avais plus une angine, il ne s'est pas du tout... Il n'a pas voulu réitérer l'exploit, je ne lui ai rien demandé, moi, voilà, c'était comme ça.
Côté cuisine, Catherine Ney, vous êtes plus poisson ou viande?
Les deux, mais plutôt poisson quand même.
Ah bah ça tombe bien, regardez, nous avons invité une jeune chef qui est en face de vous, elle s'appelle Sandrine Estève. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Bonjour.
C'est la
Bonjour.
Saison des Saint-Jacques, on vous retrouve derrière les fourneaux du petit Victor Hugo à Paris, dans le 16e arrondissement.
C'est magnifique.
Et vous mettez un point d'honneur à cuisiner les poissons de saison. Qu'est-ce que vous avez eu comme belle assiette? Racontez-nous Catherine.
Oh, des coquilles Saint-Jacques qui sont sur une... purée de carottes.
Le petit marron.
Voilà.
C'est la
ce
couleur.
Que j'aime, mais c'est la couleur.
Oui.
Et avec du safran autour, non?
Avec un jus de carotte réduit, infusé au gingembre et à la citronnelle.
Oh.
Qu'est-ce que vous aimez tant dans les poissons, dans les produits de la mer, Sandrine Estève, racontez-nous.
Avant tout, c'est le produit en lui-même. J'aime retrouver en premier, quand je prends une bouchée, la saveur du produit phare, là, en l'occurrence la Saint-Jacques, sans trop faire de petits chichis, comme on dit chez nous, les petits chichis de trop.
Elles viennent d'où alors?
Dieppe.
Elles viennent de Dieppe.
Elles sont cuites à la perfection. Quand vous les coupez en deux, elles sont translucides à cœur.
Juste de mon mieux.
Non, elles sont
c'est
translucides
délicieux.
À cœur.
Merci.
Elles sont juste parfaites
en cuisson. Vous me donnerez, je viendrai chez vous.
Ouais, c'est très très bon.
Non, mais c'est formidable.
Le petit Victor Hugo, dans le 16e arrondissement, 143 rue Victor Hugo.
Oui, mais ça fait très longtemps qu'on m'en a parlé du petit Victor Hugo, je ne suis jamais allée.
Vous avez la chef en face de vous.
Ah oui,
voilà.
Avec plaisir.
Ah, c'est succulent, absolument merveilleux.
Non, mais le produit est exceptionnel.
C'est ça, exactement.
En fait, c'est les produits, c'est la fraîcheur. Alors, je prends que des produits de nos côtes, normandes, bretonnes essentiellement. Et j'évite les zones de surpêche, justement, petit Victor Hugo, puisque nous avons eu le logo écotable.
Et on a une charte Éthique-Océan aussi.
Éthique-Océan, voilà. Et on a une charte, en fait, où on évite certaines zones de pêche, de surpêche, et les poissons d'élevage, bien évidemment, quoi.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Ophélie Neyman, avec ces belles Saint-Jacques de Normandie?
Alors, moi, je partirais quand même sur un vin blanc. Quoi qu'on peut aller, si on veut s'amuser, sur un vin un peu orange, pour rappeler, justement, cette carotte et ce potiron, faire un petit accord de couleur. Mais à ce moment-là, il faut prendre un vin orange vraiment en subtilité avec une très légère macération pelliculaire qui va donner juste un tout petit peu de structure, mais pas trop d'amertume.
Qu'est-ce que vous appelez vin orange ?
Un vin orange, c'est un vin blanc qui est vinifié comme un vin rouge. C'est-à-dire qu'on va laisser macérer un petit peu la peau et les pépins avec le jus, comme on le ferait pour un vin rouge. Ça donne plus de structure, un peu de tanin au vin blanc. Mais attention, pas d'amertume avec ce plat-là.
Merci Sandrine pour
avec
cette
plaisir.
Belle régalade.
Je vous attends au petit Victor Hugo. Avec
dans
plaisir, je vous reçois.
Merci. Et on voyait la fraîcheur justement de ces Saint-Jacques à la blondeur. Une blondeur comme ça, elles ont été cuites très peu de temps. Huile d'olive ou beurre d'ailleurs ?
Huile d'olive, bien
huile
sûr.
D'olive. Et ben voilà.
Ah oui, huile d'olive.
Huile d'olive, oui.
Vous retrouverez la recette évidemment sur europe1.fr.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous, bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Catherine Ney est notre invitée, elle est venue nous voir avec son dernier livre, Tu le sais bien, Le temps passe. C'était une des phrases de votre cher Albin Chalandon. Votre mari vous disait cette phrase à la fin de sa vie. Dans ce livre, Catherine, vous parlez aussi de la perte de votre frère, de vos parents. L'écriture, en fait, elle permet de continuer à faire vivre nos chers disparus aussi.
Oui, puis quand je fais un livre politique, je ne parle pas de moi, mais là, c'était mes souvenirs, à la fois politiques, et puis pendant ces années que je raconte, dans une vie, il arrive des bonheurs et des malheurs, et le plus grand des malheurs, c'est de perdre les siens, mais ce qui arrive à tout le monde. Et quand j'écrivais ce livre, à un moment, j'ai eu un blanc parce que je me disais, tiens, j'ai plus de souvenirs. Enfin, j'avais tous mes cahiers et tout ça. Puis je n'ai pas dormi pendant deux nuits. Je ne savais pas pourquoi. Et puis je me suis dit, bien sûr, c'était des années où mon père est mort. Et mon frère, un an, presque jour pour jour après. Et ça a été des grands traumatismes. Et puis, j'ai raconté comment ça s'était passé.
Et après,
je me suis dit, mais il y a eu mon meilleur ami, il y a eu Paul Gilbert qui était mon meilleur ami, qui était un journaliste, et puis après ma mère, qui était le grand, grand, grand chagrin, et puis évidemment Albin, il y a un an et demi, quoi. Mais j'ai voulu aussi parler de lui de cette façon particulière, raconter une expérience de sa vie qui l'a marqué faire rouge, quoi, voilà.
Oui, vous parlez de ces moments dans la résistance, effectivement, et puis de ce passage où il était obligé de se retrouver face à des miliciens.
Qui avaient trahi et qui avaient causé la mort de 70 jeunes à la Ferté-sous-Jouarre.
C'est ça.
Il y avait les ordres de les éliminer, quoi.
Exactement, ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas voulu que les autres le fassent non plus.
Qu'ils étaient ivres.
Il a pris ses responsabilités, comme on dit. Revenons à la politique, tiens Catherine, vous en avez rencontré des hommes et des femmes politiques. Est-ce qu'il y en a qui sont passés, vous diriez, à côté de leur destin ? Je pense à DSK, je pense à Philippe Seguin, par exemple, qu'on disait souvent
DSK,
promis à,
DSK,
à un avenir de président de la République.
DSK, c'est évident, mais l'un et l'autre, je me demandais s'ils avaient vraiment envie, parce que quand vous avez envie d'être président, vous ne pensez plus qu'à ça. Mais des gens comme DSK, c'était à la fois un type très intelligent, mais qui avait une addiction, qui n'était pas au vin, lié à la table, qui faisait que c'était, par moments, vous voyez, ce qui m'avait frappé plusieurs fois, c'est qu'il passait à la télévision, on sentait la compétence. La première demi-heure était assez éblouissante. Puis on savait tout d'un coup, il se débranchait, on sentait qu'il en avait marre. Il disait, bon, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'arrête. Et est-ce qu'il avait vraiment envie du pouvoir qui ferait qu'il serait sans arrêt surveillé, manquerait de liberté, entraverait sa vie ? J'en suis pas sûre. Et le dernier épisode avec ce qui s'est passé à New York, moi je trouve que c'est un acte manqué parce qu'il allait, il venait à Paris dans le fond pour préparer son sacre. Donc, moi, je pense que ce n'est pas arrivé par hasard. Vous voyez et Philippe Séguin, lui, il avait un caractère très ombrageux. C'était un tempérament de boulet de canon avec Chirac en avait peur. C'est-à-dire qu'il voulait les choses et les voulait-il. Et quand il se présentait à la mairie de Paris, vous voyez, pour succéder...
Oui, il n'y est pas allé à fond.
Il n'y a pas été à fond. Il était toujours... Moi, j'ai voulu expliquer les raisons de ce caractère très acrimonieux, ombrageux, qui aurait voulu être le fils préféré de Chirac, alors que c'était Juppé, enfin, qui souffrait en permanence. D'ailleurs, vous voyez, ce rapport d'ailleurs au père-fils.
Père-fils, c'est une pupille de la nation, Philippe Séguin.
Oui, mais je me demandais pourquoi, quel était son secret. Et je l'ai percé d'ailleurs... Enfin, je l'ai percé parce qu'il y a eu aussi le livre de Michel Taubman qui l'a raconté, que je cite. C'est-à-dire que cet homme qui n'a pas connu son père biologique, pardon, qui est mort lorsqu'il avait tout, il était bébé. Ouais. Donc, il a dû porter le deuil d'un homme qui était mort à la guerre en 1944, c'est-à-dire à la fin
c'est
de
ça,
la guerre.
Pupille de la nation.
Bon, pupille de la nation. Mais en fait, son malaise faisait qu'il était, c'était un secret de Polichinelle à Tunis, qu'il était en fait le fils d'un homme qui avait été l'amant de sa mère, qui était un juif tunisien, et que les parents avaient vite, qui étaient des Français de Tunisie, avaient vite fait un mariage pour oublier. Et d'ailleurs, c'est vrai que Philippe, il avait l'air d'un juif tunisien. Et ses amis, et ses meilleurs amis à Paris l'étaient, vous voyez. Et il disait toujours, la Tunisie, c'est comme ma mère. Il disait toujours ça. Mais non, c'était comme son père, vous voyez. Et je crois qu'avant la fin de sa vie, il a pu le rencontrer. Mais malheureusement, ce père est mort avant qu'ils aient eu le temps de se parler, de se connaître plus. Et donc, ça a été une tragédie. Vous voyez
c'est passionnant ce que vous nous racontez. C'est ce qui se passe dans votre livre. Vous nous racontez, mais c'est vrai, la grande histoire par la petite histoire. C'est comme ça qu'on comprend les hommes politiques. C'est comme ça qu'on comprend aussi les décisions qu'ils ont été amenés à prendre. Et puis, leurs accointances, leur goût et puis leur détermination pour leur pays aussi.
Mais c'est la vie, tout ça.
C'est
oui.
la vie, exactement. Oui. Comme la table. Alors, on va revenir à la table, Catherine. Est-ce que vous aimez le champagne?
Mais je viens de goûter celui que vous avez mis dans mon verre et qui est très bon.
Ah bah oui. Très bien, bah ça commence
mais,
bien.
Mais je sens qu'il est un peu fort et vous voyez, comme je vais rentrer en voiture tout à l'heure...
On va vous raccompagner, on va vous raccompagner. Alors Ophélie, parlons un petit peu du champagne. C'est vrai que Noël approche et les bulles ont toujours une comme ça, notion un petit peu festive. Mais on peut faire un dîner totalement au champagne sans complètement casser la tirelire aussi.
Absolument, moi c'est ce que je fais régulièrement, c'est mon snobisme. Parce que c'est la France, c'est la France. En fait, nouvelles, quand elles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent, eh bien, adopter cette attitude de dandy, ma foi, pour moi, c'est une manière assez charmante d'adoucir la vie. Et vous allez me dire, Laurent, absurde le champagne à table? Je vous réponds non, pas
du
tout.
Oui, j'allais vous le dire.
Moi, je trouve que c'est le contraire qui est absurde. Parce que voyons voir, une bouteille, ça coûte entre 18 et 30 euros en moyenne, hein, la bouteille de champagne, à peu près le même budget qu'un vin pour un repas de fête. Alors, je trouve ça très frustrant de réserver le champagne au tarama, aux allumettes de fromage, à l'apéritif.
C'est vrai.
Parce que c'est d'abord un vin, le champagne. Avant d'avoir des bulles, on fait un vin. Donc, autant en profiter.
Alors, vous nous avez parlé des moments de champagne, chacun les siens. Vous l'aimez avec quel plat, votre champagne, vous, Ophélie?
Ben, moi, je trouve que ça va avec presque tout. Pourquoi? Parce que la bulle, ça dynamise n'importe quel plat. Et l'acidité du champagne, qui est très marquée, ça va donner du peps un peu aux papilles, ça va les réveiller. Et puis, il y a les arômes de brioche, d'agrumes, de pain d'épices, de cerises parfois qui permettent ces accords. Le tout, c'est de choisir la cuvée adaptée. C'est-à-dire pas le petit champagne qui va s'évanouir en deux secondes. Non, la cuvée qui a de la matière, ce qu'on appelle un champagne de gastronomie et qui va durer. Ça peut être aussi bien un blanc de blanc, qui va aller très bien avec du poisson cru, avec des sushis. Un blanc de noir, donc à base de pinot noir, pinot meunier, qui va évoquer plutôt des arômes de fruits à noyaux, de pêche, d'abricots, et qui vont aller très bien avec des viandes même. Enfin voilà, ou des cuvées millésimées qui vont sentir la truffe, là tout est possible.
Qu'est-ce qu'on déguste là alors?
Alors là, on déguste un champagne de vigneron, c'est le champagne Guenin. Ça vient de la Côte des Barres. Côte des Barres, on fait beaucoup de pinot noir et c'est un 100% pinot noir.
Dans l'aube?
Vous pouvez, exactement. Vous pouvez le regarder un petit peu à la couleur. D'ailleurs, il est très, très légèrement taché, très légèrement cuivré. Il a fait un peu de barrique. Il y a le tiers des raisins qui sont passés en fût de chêne. Et bah, ça coûte que 22 euros. Donc, on ne peut pas dire que ça vous perd ce porte-monnaie. Et ça va très bien avec une volaille à la crème, par exemple. Parce que il est, alors ça s'appelle nature d'argile. Ça veut dire qu'il n'est pas dosé en sucre.
Eh oui, non
quand,
dosé.
Quand on dit nature sur le champagne, ça n'a rien à voir avec le côté bio, ça veut dire qu'on n'a pas rajouté de sucre.
Ce sont des champagnes un petit peu vineux quoi aussi.
Absolument,
hein.
C'est pour ça qu'on dit charpenté, on peut dire charnu, on peut dire vineux, on peut dire structuré. Mmh. Il faut qu'il y ait de la longueur, il faut qu'il y ait de la matière sur la bouche.
Et ben voilà, on retrouvera les références sur Europe 1.fr.
Vous m'avez dit donc très peu de sucre dans celui-là.
Ah, très très peu.
Zéro.
Zéro.
On n'en a pas rajouté. Ça ne veut pas dire que l'alcool, ce n'est pas du sucre transformé.
Il y a le sucre naturel de l'alcool, voilà.
Mais sinon, on n'a pas rajouté. Donc, c'est un champagne zéro sucre.
Et 22 euros pour revenir à la politique, Catherine Ney. On est loin de la phrase de, je ne sais pas si vous vous souvenez, de François Hollande, une fois président. Il a dit « Moi, président, vous ne me verrez jamais un verre de champagne à la main parce que ça fait riche. » C'est quand même pas sympathique pour les...
Il a dit une chose pareille.
Il a dit ça, bien sûr. C'est quand même pas sympathique pour les vignerons champenois.
Il mérite ce qui lui est arrivé.
En voilà. Cela, Emmanuel Macron était beaucoup plus malin. Lui qui avait fait des dégustations de vin devant des caméras pour Terre de Vin Ouest France. Et ça a fait plaisir aux vignerons. Hein.
Bientôt midi et demi, mais attention, c'est pas fini. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, chère Catherine. Quel est le goût de votre enfance?
La tarte aux pommes.
Ah, Le premier plat que vous avez cuisiné ?
Un lapin à la moutarde, raté.
Quel est votre plus beau repas ?
Le plus beau repas, c'est toujours des moments où, où se mêle à la fois la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette et le plaisir d'être avec quelqu'un qu'on aime.
C'est ça. Avec Albin, vous avez fait de belles tables.
Oui.
Ouais.
Oui. Mais voilà. Mais avec Albin, et puis je crois que le plaisir d'un repas, c'est d'être avec des gens qu'on aime.
Votre pire repas, Catherine ?
J'étais invitée un soir chez d'ailleurs, c'est un ami d'Albin qui était banquier et tout ça. Et il nous avait servi des coquilles Saint-Jacques, justement, mais crues. Mais épaisses, vous voyez, comme ça.
Ah oui, ça se taille. En carpaccio, c'est bon, cru, mais épais, c'est...
Alors là, j'ai cru, alors là, défaillir tellement, voilà.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Catherine Ney ?
Oh non, mais là, on va pas dire, j'aimerais dîner avec Voltaire et tout ça. Je vais vous raconter un truc comme ça. Mais non. Je veux dire, je dîner avec les amis que j'aime. Alors, je vais pas vous en faire... Et puis, je veux dire, dîner avec ma famille à Noël. Dîner, voilà, je veux dire, mes frères. Mais voilà, je veux dire, avec les gens qu'on aime, quoi.
Quelle est votre adresse secrète ?
Ben, si je vous le dis, elle sera plus secrète.
Ben, c'est ça que je veux, justement, c'est la connaître.
Non, mais mon adresse secrète, c'est une dame qui me fait mes foie gras. Et je ne vous dirai pas son nom, voilà. Et qui les fait très bien.
Elle lâche rien, c'est pas facile, hein, comme ça. Hein,
oui.
On reconnaît la journaliste politique pugnace et tenace, hein, quand même. Oui. Et pour terminer, le mot de la fin, FIM, Catherine.
Oui, foie gras.
Ça fait plaisir.
Ah, voilà. Oui, voilà.
On reconnaît votre franchise et votre honnêteté.
Non, parce que je vais vous dire, là, pour moi, le plaisir, les fêtes arrivent et même là, je trouve qu'un pain, un très bon pain grillé et un très bon foie gras, c'est voilà.
Oui, mais vous savez que c'est pas politiquement correct en ce moment avec la mairie de Lyon et la mairie de Strasbourg qui l'interdit des réceptions officielles.
Oui, mais je trouve qu'on est à Paris et que Madame Hidalgo.
Pour l'instant, le garde. Pour l'instant. Merci Catherine Ney d'être venue à cette table. C'était un plaisir, toujours,
partager.
De passer du temps avec vous. Tu le sais bien, le temps passe. Souvenir, le tome 2, hein, c'est la suite du premier. Là, on va de 1995 à 2017 aux éditions Bouquin. Bon week-end, Catherine.
Merci, et Laurent.
On vous
retrouve,
évidemment,
merci à tous.
Sur Europe 1, entre autres, avec les grandes voix d'Europe 1. Tous les samedis avant nous à 10h. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Vous la retrouverez, l'émission, en vous abonnant au podcast sur europe1.fr. Même adresse pour la newsletter avec toutes nos références, nos adresses et nos recettes. Et bon week-end sur Europe. Et merci Catherine.
Merci, c'est moi.